Gatsby le Magnifique, de Francis Scott Fitzgerald. Réalisation, Alexandre Planck. Musique originale, Issam Krimi. Adaptation, Pauline Timonier. Enregistré en public le 3 mai 2019, au studio 104 de la Maison de la Radio.
Il y a eu de la musique chez mon voisin tout au long des nuits de l'été 1922. Des hommes et des femmes voltigeaient comme des phalènes dans ces jardins enchantés, dans une atmosphère de murmures, de champagne et d'étoiles. L'après-midi, à marée haute, je pouvais voir ces invités s'envoler du plongeoir ou rôtir au soleil sur le sable brûlant de sa plage privée, tandis que ces deux hors-bord fendaient les eaux du détroit, entraînant des aquaplanes dans des cataractes d'écume. En fin de semaine, sa Rolls-Royce se transformait en autobus qui faisait d'incessants va-et-vient entre sa maison et New York de 9h du matin à minuit, largement passé. Et son énorme voiture jaune crème vrombissait sur la route de la gare pour ne manquer l'arrivée d'aucun train. Et le lundi, 8 domestiques travaillaient toute la journée à effacer les ravages de la veille.
Vous habitez Long Island ? Il y a un mois, j'ai été là-bas pour une soirée, chez un homme qui s'appelle Gatsby.
J'adore aller chez lui. Je fais n'importe quoi et je m'amuse toujours beaucoup. La dernière fois, ma robe s'est déchirée contre une chaise. Gatsby m'a demandé mon adresse et dans la semaine, on m'a livré un carton de chez Croisier avec une robe du soir toute neuve. $265.
L'orchestre se mettait en place vers 19h. À cette heure-là, les derniers baigneurs sont rentrés de la plage et s'habillent dans les chambres. Et le bar est pris d'assaut. Un vrai bar avec toute une réserve de gin, d'alcool, de liqueur et des plateaux de cocktails se faufilent dans les jardins. L'air s'en imprègne peu à peu et résonne de petits cris, de petits rires, de mystérieux sous-entendus, de présentations oubliées sitôt faites, d'exclamations extasiées de femmes qui se croisent sans même savoir qui elles sont. Et à mesure que la terre se détache à regret du soleil, l'éclat des lumières s'amplifie dans les jardins, les rires se font de plus en plus francs. Brusquement, une jeune femme attrape un cocktail au vol, le vide d'un trait pour se donner du courage et se risque à danser seule, une brève accalmie, l'obligeance du chef d'orchestre qui consent à suivre son rythme et une fausse rumeur qui grandit affirmant que cette jeune femme est la doublure d'une star des Siegfried Follies. Et la soirée commence.
Quand même, un homme qui agit comme ça, c'est bizarre. Il veut éviter d'avoir des problèmes avec qui que ce soit, ça saute aux yeux.
De qui parlez-vous ?
De Gatsby. Quelqu'un m'a dit
qu'on le soupçonne d'avoir tué un homme.
C'est plutôt que pendant la guerre, il était espion allemand.
Mais non, impossible. Pendant la guerre, il servait dans l'armée américaine.
Observez-le bien, l'air de rien, quand il croit que personne ne le regarde. Ma main a coupé qu'il a tué un homme.
Je crois que le premier soir où j'ai été chez Gatsby, j'étais l'un des rares invités officiels. Les gens n'étaient pas invités. Ils venaient tous d'eux-mêmes. Il leur suffisait de connaître quelqu'un qui connaissait Gatsby et ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Moi, j'ai donc été officiellement invité. Très tôt, ce samedi matin, un chauffeur en livrée a traversé ma pelouse pour me remettre un pli étrangement cérémonieux de son patron, disant que ce serait un très grand honneur pour lui si j'acceptais de me rendre à la petite fête qu'il donnait ce soir-là. Qu'il m'avait aperçu à plusieurs reprises de loin, mais qu'un regrettable concours de circonstances l'avait empêché de me téléphoner, etc. Et c'était signé d'un majestueux paraphe, Jay Gatsby. Alors dès mon arrivée dans la soirée, j'ai voulu rencontrer mon hôte, mais les deux ou trois personnes que j'ai interrogées m'ont regardé avec un tel effarement et répondu avec une telle véhémence qu'elles ignoraient toutes ces faits et gestes, que j'amorçais un repli vers le bar, unique endroit où un homme seul avait le droit de s'attarder sans donner l'impression d'être abandonné ou perdu.
Eh, vous savez ce qu'on dit ? Qu'il serait le cousin ou le neveu du Kaiser Guillaume II. C'est pour ça qu'il a tant d'argent.
Il m'a dit un jour qu'il sortait d'Oxford.
Le type qui l'a tué autrefois avait découvert qu'il était neveu d'Hindenburg. Et le cousin germain du diable.
À minuit, le plaisir était à son comble. Et j'avais pour ma part déjà vidé deux grands rince-doigts de champagne. Et la soirée s'était transformée à mes yeux en quelque chose d'imposant, d'essentiel et d'absolu. Assis à la même table que moi, un inconnu me regardait en souriant.
Votre visage me dit quelque chose. N'étiez-vous pas dans la 3e division pendant la guerre ?
Exact, au 9e bataillon d'artillerie.
Et moi au 7e d'infanterie, jusqu'en juin 18. J'étais certain de vous avoir vu quelque part.
Nous avons évoqué pendant un moment quelques villages de France plus vieux et grisâtres, mais sans doute habitaient-ils les environs, car il m'apprit qu'il venait d'acheter un hydravion et qu'il comptait l'essayer le lendemain matin.
Voulez-vous l'essayer avec moi ? Juste un petit tour, au-dessus du détroit, sans trop nous éloigner du rivage.
À quelle heure ?
Mais l'heure qui vous convient. Tout se passe bien pour vous ce soir.
C'est une soirée un peu étrange, je n'ai pas encore rencontré mon hôte. J'habite tout près, là. Ce Gatsby m'a fait porter une invitation par son chauffeur.
Je suis Gatsby. Je pensais que vous le saviez.
Je vous demande pardon ?
J'ai l'impression d'être un bien mauvais maître de maison.
Il me sourit avec une sorte de compréhension qui allait au-delà de la compréhension. L'un de ces sourires que l'on ne rencontre que 5 ou 6 fois dans sa vie. Arrivé là, son sourire s'effaça. Et j'ai vu devant moi qu'un homme dans les 30 à 32 ans. Élégant mais un rien balourd. Et dont le langage policé frisait parfois le ridicule. À l'instant où Gatsby se révélait ainsi à moi, un majordome arriva pour le prévenir qu'il avait Chicago au bout du fil.
Cher vieux, quoi que vous désiriez, demandez-le. Pardonnez-moi.
Je m'étais toujours imaginé Gatsby sous les traits d'un quinquagénaire. Si on m'avait dit à ce moment-là qu'il sortait des marais de Louisiane ou des quartiers mal famés d'East Side, je l'aurais cru sans hésiter. Les jeunes gens ne pouvaient pas, c'est du moins ce que j'estimais dans ma naïveté provinciale, ils ne pouvaient pas surgir tranquillement de nulle part et s'offrir un palais sur le détroit de Long Island.
C'est qui, ce Gatsby ?
Personne.
Les nouveaux riches, tu sais, c'est contrebande et compagnie. Du business illégal.
Quand même, il a dû ramer un bon bout de temps pour réunir une pareille ménagerie.
Le hasard seul a fait que je loue cet été-là une maison dans l'une des communautés les plus atypiques d'Amérique du Nord. Elle est située sur cette île étroite et tapageuse qui prolonge New York vers l'est. Entre autres curiosités naturelles, elle compte 2 excroissances côtières tout à fait insolites. 2 œufs géants, jumeaux quant à leur forme, et à peine séparés par une baie privée, qui sont venus se nicher là, à quelques 20 miles de la ville, au bord du plan d'eau salée le plus domestiqué de l'hémisphère occidental, ce grand poulailler détrempé qu'est le détroit de Long Island. Moi, j'habitais West Egg. C'est le moins, disons, le moins huppé des 2 œufs. Ma maison était située à la pointe extrême de l'œuf. Elle était coincée entre 2 énormes bâtisses, dont le loyer avoisinait les 15 000 dollars par mois. Et celle à ma droite était absolument gigantesque à tout point de vue. C'était la demeure de Gatsby. La mienne était une offense pour l'œil. Mais elle était si insignifiante qu'on l'avait épargnée. Ce qui me donnait le droit à une vue sur la mer et à l'entourage rassurant de quelques millionnaires, le tout pour 80 dollars par mois. Sur l'autre rive, en face, les façades blanches des palais d'East Egg, l'œuf le plus huppé, scintillait en bordure de mer. Je m'y étais rendu en voiture au début de l'été, invité à dîner chez Tom et Daisy Buchanan. Daisy. Daisy était ma cousine germaine. Et j'avais connu son mari Tom à l'université. Entre autres exploits physiques, Tom était l'un des ailiers les plus athlétiques que Yale ait compté dans une équipe de football. Un héros national, en quelque sorte. L'un de ces garçons qui, à 21 ans, atteignent un tel niveau de réussite que tout ce qu'ils font par la suite a un arrière-goût d'échec. Sa famille était fabuleusement riche. Et depuis qu'il avait quitté Chicago pour la côte Est, il menait un train de vie à couper le souffle. Pourquoi la côte Est, je l'ignorais. Après un an passé en France, sans raison précise, ils avaient erré d'un endroit à l'autre, partout où les gens peuvent être riches ensemble et jouer au polo. Daisy m'avait affirmé au téléphone qu'il s'était installé pour de bon cette fois, mais j'en doutais. Si j'ignorais tout des élans du cœur de Daisy, Tom me donnait le sentiment d'un être à la dérive, s'entêtant à chercher, avec un rien de nostalgie, les violences spectaculaires de certaines parties de football, impossibles à réinventer. Un soir, donc, j'ai pris la route d'East Egg pour rendre visite à Tom et Daisy Buchanan. Ils habitaient un palais rouge et blanc qui était beaucoup plus raffiné que je ne l'aurais cru.
Je suis paralysée de bonheur. Nick, comment vas-tu ?
Bien, et toi ?
Je suis ankylosée. Cela doit faire des siècles que je n'ai pas quitté ce canapé. Y a-t-il longtemps que tu es allé à Chicago ?
J'y suis passé une journée avant de regagner la côte Est et une douzaine de personnes m'ont chargé de te transmettre leurs amitiés.
On me regrette alors ?
Toute la ville est en deuil. Toutes les voitures ont leur roue arrière gauche peinte en noir comme autant de couronnes mortuaires.
Merveilleux. Il faut que j'y retourne. Dès demain.
Une invitée de Daisy s'approcha de moi et me dit...
Puisque vous habitez West Egg, vous devez connaître Gatsby.
Gatsby ? Quel Gatsby ?
Au moment où j'allais répondre que nous étions voisins, on annonça le dîner.
Pourquoi y a-t-il des bougies sur la table ? Nous sommes à 2 semaines du jour le plus long de l'année. Êtes-vous comme moi ? À guetter le jour le plus long de l'année pour l'oublier quand il arrive ? Moi, je guette le jour le plus long de l'année et quand il arrive, je l'oublie.
Essayons de prévoir quelque chose pour ce jour-là.
Oui, c'est ça. Prévoyons. Prévoyons. Mais que prévoient les gens ?
À table, Tom parla longuement d'un livre qu'il venait de lire et qui démontrait scientifiquement, selon lui, que la race blanche devait être sur ses gardes. Que sinon, ils finiraient par être engloutis. Et que leur devoir à eux, les héritiers, c'était d'empêcher les autres races de prendre le pouvoir.
Nous les réduirons en bouillie.
Il y avait vraiment quelque chose de pathétique chez Tom. Comme si son autosatisfaction, aiguisée par l'âge, avait besoin de nourriture nouvelle. Et puis, le téléphone sonna. Le maître d'hôtel vint chuchoter quelque chose à l'oreille de Tom, qui repoussa sa chaise et sans mot dire disparut à l'intérieur de la maison. Quelques minutes après, Daisy nous demanda de l'excuser et sortit à son tour. C'est alors que j'appris, par ma voisine de table...
Tom s'est trouvé une fille à New York. Vous n'êtes pas au courant ? Tout le monde en parle.
Et quand il fut évident que c'était cette fille qui appelait au téléphone, je n'osais plus regarder personne dans les yeux. Un froissement d'étoffe, un crissement de bottes, et Tom et Daisy nous rejoignirent à table.
Je suis allée admirer le paysage une petite minute. C'est très romantique comme paysage. Il y a un oiseau sur notre pelouse. Je crois que c'est un rossignol. Il a dû nous arriver d'Europe sur un paquebot. Il s'égosille éperdument. Romantique, n'est-ce pas ?
Et le téléphone sonna une seconde fois avec insistance. Mais Daisy secoua brutalement la tête en direction de Tom et il ne fut plus question ni de rossignol, ni de rien. Après le dîner, j'ai suivi Daisy jusqu'à la véranda qui longeait la façade. Nous nous sommes assis côte à côte et Daisy a pris son visage dans ses mains comme pour en vérifier le charmant contour. Et son regard s'est perdu peu à peu dans le velours du crépuscule.
Nous nous connaissons à peine, Nick. Nous sommes cousins pourtant. Tu n'es même pas venu à mon mariage.
J'étais encore mobilisée.
C'est juste. J'ai vécu des moments très difficiles, Nick. Et je suis devenue d'un cynisme absolu par rapport à tout. Je pense que tout est horrible. Tout le monde pense ça.
Les gens les plus évolués.
Et je sais. J'ai tout fait. J'ai tout vu. J'ai été partout. Snob. Dieu que je suis snob.
À l'instant précis où sa voix s'éteignit, je sus que rien de ce qu'elle m'avait dit n'était vrai. Et j'en ai ressenti un profond malaise, comme si tout ce dîner n'avait été qu'un jeu d'illusionnisme, destiné à me soutirer ma part d'émotion. Quand elle s'est tournée vers moi, il y avait sur son charmant visage une petite grimace d'ironie, me confirmant qu'ils appartenaient, Tom et elle, à une société secrète de très haut niveau. En repartant, j'étais inquiet et un peu écœuré. Pour moi, Daisy n'avait qu'une chose à faire, quitter cette maison. Mais elle n'avait pas l'air d'y songer. Quant à Tom, le fait qu'il ait trouvé une fille à New York était beaucoup moins surprenant que de le savoir déprimé par la lecture d'un livre. En arrivant chez moi, à West Egg, je m'assis dehors, dans le jardin, et constatai que je n'étais pas seul. À 50 yards de moi, environ, un personnage sortait de l'ombre que dessinait la demeure de mon voisin. Et debout, les mains dans les poches, il regardait la poudre argentée des étoiles. Quelque chose dans la nonchalance de son attitude et l'assurance avec laquelle il foulait la pelouse me conduisit à penser que c'était Gatsby en personne, venu évaluer quelle superficie de notre ciel commun lui appartenait en propre. J'eus envie de l'appeler, mais je m'en gardais car il me fit soudain comprendre qu'il voulait être seul. D'un geste surprenant, il a tendu les deux bras vers l'eau noire et malgré la distance qui nous séparait, j'aurais pu jurer qu'il tremblait. J'ai regardé vers le large à mon tour et je n'ai rien remarqué d'autre qu'une petite lumière verte, solitaire et lointaine, qui indiquait peut-être la pointe d'une jetée. Et quand je suis revenu vers Gatsby, il avait disparu. À 9h précises, un matin de la fin juillet, la superbe voiture de Gatsby remonta le chemin défoncé qui menait jusque chez moi et j'entendis les trois notes de son klaxon. J'avais déjà participé à deux de ses soirées, j'avais déjà essayé son hydravion, mais c'était la première fois qu'il me rendait visite.
Bonjour, cher vieux. Je vais à New York aujourd'hui et j'ai pensé que nous pourrions faire la route ensemble. Belle voiture, non? Vous ne l'aviez jamais vue?
Ah, évidemment que je l'avais déjà vue. Tout le monde la voyait, sa voiture. Elle était énorme, d'un jaune crème intense, rutilante, pleine de vitres, de glace et de nickel. Elle reflétait à elle seule une douzaine de soleils. Nous sommes partis à New York et Gatsby tambourinait nerveusement sur son genou. Et nous n'avions pas encore atteint West Egg Village qu'il renonça à son langage policé.
Écoutez, que pensez-vous de moi là, franchement, cher vieux? J'aimerais vous apprendre deux, trois choses, que vous me connaissiez un peu mieux. Je n'aimerais pas que vous fassiez une fausse idée de moi à travers tout ce que tout le monde raconte. Je vais vous dire la vérité de Dieu. Je suis le descendant de gens extrêmement riches du Middle West, mais tous morts aujourd'hui. J'ai grandi en Amérique, mais j'ai fait mes études à Oxford, comme toute ma famille, et j'ai donc hérité d'une grosse fortune, car plus aucun n'est en vie aujourd'hui. J'ai vécu ensuite comme un jeune nabab à travers toutes les capitales d'Europe. Paris, Rome, Venise, collectionnant les perles précieuses. Les rubis, en priorité. Chassant le gros gibier, et peignant un peu, mais pour mon plaisir. Et surtout, essayant d'oublier quelque chose d'infiniment triste qui m'était arrivé auparavant. Puis la guerre est arrivée. Un soulagement pour moi. J'ai tout fait. Tout fait pour être tué, mais ma vie semblait comme protégée par un charme. J'avais le grade de capitaine. Et dans la forêt d'Argonne, j'ai poussé deux détachements d'artillerie très haut sur les lignes. Nos obus avaient creusé de si profonds entonnoirs que les fantassins n'arrivaient même plus à s'y déployer. Nous avons tenu 2 jours et 2 nuits. 130 hommes, 16 fusils mitrailleurs et quand les fantassins nous ont enfin rejoints, ils ont identifié sur cet entassement de cadavres les insignes de 3 divisions allemandes. J'ai été promu commandant et décoré par tous les états-majors alliés, y compris celui du Monténégro. Oh, tenez, voici la médaille du Monténégro. Mais retournez-la, cher vieux, retournez-la.
Major Jay Gatsby, pour son exceptionnel courage, tout avait l'air vrai.
Et comme j'ai quelque chose de très important à vous demander aujourd'hui, j'estime que vous êtes en droit de me connaître un peu mieux. Je n'aimerais pas que vous me preniez pour n'importe qui.
Octobre 1917. Je venais d'avoir 18 ans. J'étais la fille la plus populaire de Louisville. Mon téléphone sonnait toute la journée. Les jeunes officiers de Camp Taylor sollicitaient d'une voix anxieuse l'honneur d'accaparer mon temps. Sinon pour la soirée, du moins pour 1 heure. Et il y avait ce lieutenant qui me fascinait, qui me regardait comme toutes les jeunes filles rêveraient qu'on les regarde. Il s'appelait Jay Gatsby.
Daisy était la première fille, comme il faut, que je rencontrais. J'ai tout de suite éprouvé un désir intense pour elle. Sa maison était la plus belle que je n'avais jamais vue. Nous nous sommes aimés, un mois. La veille de mon embarquement, je l'ai serrée très fort dans mes bras. Sans un mot. Longtemps.
Quand Jay est parti pour l'Europe, l'hiver suivant, ma mère m'a surprise en train de préparer ma valise pour me rendre à New York, lui faire mes adieux. J'ai dû y renoncer, mais je n'ai pas adressé la parole à ma famille pendant plusieurs semaines.
L'armistice signé, je me suis démené pour être rapatrié, mais par faute d'une erreur ou d'un malentendu, j'ai été retenu plusieurs mois. Mon inquiétude grandissait car je ressentais un désespoir impatient dans les lettres de Daisy.
Je ne comprenais pas ce qu'attendait Jay pour rentrer. Je voulais commencer à vivre et commencer maintenant. En juin, j'épousais Tom Buchanan de Chicago. Ce fut le mariage le plus fastueux que Louisville ait jamais connu. La veille du mariage, Tom m'offrit un collier de perles estimé à 350 000 dollars. Ce soir-là, une demi-heure avant le dîner, j'étais affalée sur mon lit, ivre comme un singe. Je tenais une lettre de Gatsby à la main. Je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. On m'a plongée dans un bain d'eau froide. Je n'ai pas voulu lâcher la lettre. J'en ai fait une boule que j'ai plongée sous l'eau et malaxée jusqu'à ce que le papier se morcelle en petits morceaux de neige. Je n'ai pas dit un mot. On m'a fait respirer des sels et ligoter à nouveau dans ma robe. Le lendemain, à 5 heures, j'épousais Tom Buchanan sans la moindre hésitation et disparaissais avec lui 3 mois dans les mers du Sud.
Quand je rentrais enfin, Daisy était encore en voyage de noces. Avec le reste de ma solde, je me suis offert un voyage à Louisville. Douloureux, mais comment y résister? J'y suis resté 1 semaine. À rechercher les rues où nous allions nous perdre. À rechercher les endroits où nos pas avaient résonné. J'en suis reparti avec le sentiment que si je l'avais cherché davantage, j'aurais pu la retrouver et que je la laissais là-bas, derrière moi.
À mon retour à Santa Barbara en août, j'étais l'épouse la plus comblée du monde. 1 semaine plus tard, Tom emboutit une voiture la nuit sur la route de Ventura. Les journaux en parlèrent car la fille qui l'accompagnait, une femme de chambre de l'hôtel de Santa Barbara, avait le bras cassé. Nous sommes partis pour la France, puis nous avons rejoint Chicago et maintenant Long Island.
Et j'ai acheté cette maison pour être juste en face de Daisy, de l'autre côté de la baie. J'espérais plus ou moins qu'elle vienne à une de mes soirées, mais elle n'est jamais venue.
Il y a 6 semaines, lorsque Nick est venu dîner, j'ai entendu le nom de Gatsby pour la première fois depuis des années.
Inviteriez-vous Daisy l'après-midi de votre choix et me permettriez-vous de vous rejoindre?
Pourquoi ne pas l'inviter vous-même?
Oh, j'aimerais qu'elle voie ma maison, juste à côté de la vôtre.
Ouais. Je comprends. J'appellerai Daisy demain, je l'inviterai à prendre un thé.
Ah, très bien, mais elle ne doit rien savoir. Invitez-la uniquement pour le thé, c'est tout.
Quel jour vous conviendrait ?
Mais quel jour vous conviendrait à vous, cher vieux ? Je ne veux pas vous déranger.
Ah, après-demain. Le lendemain, du bureau, j'appelais Daisy pour l'inviter à prendre un thé. Viens sans Tom.
Pardon ?
Je dis, sans Tom.
Quel Tom ?
Le jour dit, il pleuvait. À 3 heures, ma porte s'ouvrit avec nervosité et Gatsby, flanelle blanche, chemise gris-argent, cravate à reflets d'or, fit irruption chez moi. À 3h30, la pluie se dilua en un brouillard humide et Gatsby, l'œil absent, feuilletait un exemplaire de The Economics de Henry Clay dans le living room et il observait de temps en temps mes vitres embuées comme si d'invisibles et terrifiants événements se déroulaient à l'extérieur. Il finit par se lever et m'informa d'une voix blanche qu'il rentrait chez lui.
Il est trop tard. Plus personne ne viendra.
Bon, attendez, ne soyez pas ridicule, il est à peine 4h-2. Et quelques secondes après, nous avons entendu le bruit d'une voiture qui s'engageait dans mon allée. Je suis sorti dans le jardin. Ah, Daisy !
C'est donc là que tu habites, très cher ? Es-tu amoureux de moi ? Sinon, pourquoi fallait-il que je vienne seule ?
Quand je suis entré dans la maison avec Daisy, j'ai senti mon propre cœur se mettre à battre plus vite. J'ai refermé la porte sur la pluie qui venait de reprendre. Il y eut presque une minute de silence.
Oh, vraiment. Je suis terriblement heureuse de vous revoir.
Nouveau silence qui n'en finissait pas.
Nous sommes déjà rencontrés.
Notre dernière rencontre remonte à bien longtemps.
5 ans. En novembre prochain.
Je m'échappais et je courus m'abriter sous le feuillage d'un grand arbre. 5 ans. Peut-être qu'au cours de cet après-midi, Daisy allait-elle se montrer inférieure au rêve de Gatsby. Non par sa faute à elle, mais à cause de la colossale vitalité de son illusion à lui, qui avait été au-delà de Daisy, au-delà de tout. Il s'y était abandonné avec une passion d'inventeur, l'amplifiant sans cesse et la décorant de chaque parure scintillante qui passait à sa portée. Au bout d'une demi-heure, je me décidai à les rejoindre. Ils se regardaient comme si une question venait d'être posée ou était sur le point de l'être. Le visage de Daisy était couvert de larmes, qu'elle essuya très vite en me voyant. Et quant à Gatsby, sa métamorphose était sidérante. Il rayonnait. Sans qu'il dise un mot, sans qu'il fasse un geste, la béatitude nouvelle qui émanait de lui irradiait toute la pièce. Il ne pleut plus.
Oh, il ne pleut plus. Qu'en dites-vous ?
Je suis heureuse, Jay.
Venez avec moi. J'aimerais montrer ma maison à Daisy.
Quoi ? Vous tenez vraiment à ce que je vous accompagne ?
Et bien sûr, cher vieux. Elle est belle, ma maison, non ?
Ça, elle est superbe.
Il m'a fallu exactement 3 ans pour pouvoir me la payer.
Je croyais que vous aviez hérité d'une immense fortune.
C'est cette énorme chose-là ?
Oui. Elle vous déplaît ?
Non. Au contraire, je l'adore. Mais comment faites-vous pour y vivre seule ?
Oh. Je fais en sorte qu'elle soit toujours pleine de monde. Pleine de gens intéressants, qui font des choses intéressantes. Des gens célèbres.
Pendant la visite, pas une seconde, Gatsby ne cessa de regarder Daisy. Et je pense que les objets qu'il possédait prenaient une nouvelle valeur à ses yeux à mesure qu'ils en prenaient une aux yeux de celle qu'il aimait. Il les contemplait parfois avec stupéfaction, comme si l'incroyable et indiscutable présence de Daisy les rendait brusquement irréels. Il était bouleversé par le miracle de cette présence. Cette idée l'habitait depuis si longtemps, il l'avait si souvent imaginée, dans ses moindres détails, attendue, dans serrée, si on peut dire, avec un tel acharnement, qu'il s'en trouvait par réaction comme annihilé. Après un salon de musique Marie-Antoinette, de grands salons Renaissance, une enfilade de chambres d'époque au premier étage, nous avons fini par atteindre l'appartement de Gatsby. J'ai fait quelques pas dans la chambre et j'ai été intrigué par une grande photographie accrochée au-dessus du bureau. Un homme âgé en tenue de yachtman. Qui est-ce? C'est votre père?
Ça, cher vieux? Non. C'est Dan Cody, mon meilleur ami pendant des années. Il est mort, malheureusement.
Une petite photographie de Gatsby en tenue de yachtman lui aussi était posée sur le bureau. 18 ans, la tête rejetée en arrière comme par défi.
Oh, j'adore. Ce qu'on appelait le toupet Pompadour. Je ne savais pas que vous vous coiffiez à la Pompadour à l'époque, ni que vous aviez un yacht.
Après la maison, nous devions parcourir le domaine entier, les jardins, la piscine et pousser jusqu'à l'hydravion. Mais la pluie venait de reprendre. Alors nous sommes restés debout devant la fenêtre, à regarder la surface fripée de la mer.
S'il n'y avait pas ce brouillard, on verrait votre maison. Vous avez une petite lumière verte qui brûle toute la nuit à l'extrémité de votre jetée.
Daisy glissa aussitôt son bras sous le sien, mais il semblait comme oppressé par ce qu'il venait de dire. Peut-être prenait-il conscience que cette lumière verte, si longtemps vitale pour lui, venait de s'éteindre à jamais. La distance qui le séparait de Daisy était si grande jusque-là, et cette lumière en était si proche, presque à la toucher. Aussi proche qu'une étoile peut l'être de la lune, et ce n'était plus désormais qu'une lumière sur une jetée. Il comptait désormais un objet enchanté de moins dans sa collection. Quelques semaines plus tard, Tom et Daisy sont venus à une soirée de Gatsby. Mais cette soirée diffère complètement dans mon souvenir des autres soirées de cet été-là. On y trouvait pourtant les mêmes invités, enfin, le moins le même genre d'invités, la même explosion de couleurs, de voix criardes, la même débauche de champagne, mais je sentais dans l'atmosphère une sorte de menace, quelque chose d'insidieux et de déplaisant que je n'avais jamais ressenti jusque-là. Peut-être m'étais-je laissé subjuguer par West Egg, et avais-je fini par l'accepter comme un monde à part avec ses lois et ses notables. Mais je le voyais d'une façon différente ce soir-là, je le voyais à travers les yeux de Daisy.
Oh, tenez, regardez autour de vous. Vous allez reconnaître quantité de gens célèbres. Regardez, là-bas, c'est une actrice de cinéma.
Elle est tellement belle.
Et juste derrière, c'est son metteur en scène.
Oui, je l'aime beaucoup. Elle est tellement belle.
Mais les autres l'indisposaient sans recours possible. Elle était horrifiée par West Egg. Ce lieu sans attache que la fantaisie de Broadway avait fait surgir d'un petit village de pêcheurs. Elle était effrayée par cette vitalité instinctive. Par la fatalité implacable qui avait parqué ce troupeau d'habitants là. Cette étroite langue de terre qui reliait le néant au néant. Elle était effrayée par cette chose si simple qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Tout était possible. Dans une soirée si peu protocolaire, n'importe quel imprévu romanesque. Et ça, c'était complètement étranger au monde où elle vivait.
Elle ne s'est pas amusée.
Bien sûr que si.
Je vous dis qu'elle n'a pas aimé. Elle n'était pas heureuse. J'ai l'impression d'être si loin d'elle. C'est si difficile de lui faire comprendre. Ce que je veux, c'est que Daisy aille voir son mari et lui dise « Je ne t'ai jamais aimé ». Une fois ces 4 années effacées par ces simples petites phrases, on pourra discuter des mesures à prendre. J'aimerais qu'on retourne à Louisville, dès sa rupture officielle. Et qu'on se marie chez elle, dans la maison de son enfance, comme c'était prévu il y a 5 ans. C'est ce qu'elle ne veut pas comprendre. Elle comprenait si bien autrefois.
Je ne demanderai peut-être pas tant. On ne ressuscite pas le passé.
On ne ressuscite pas le passé. Mais bien sûr que si, cher vieux. Et je ferai tout pour que tout soit exactement comme avant. Exactement comme avant. Elle verra.
Et il me parla longtemps du passé. Mais j'ai eu le sentiment qu'il avait en tête quelque chose. Une idée de lui-même, peut-être, qui s'était égarée lorsqu'il avait aimé Daisy. Du jour où il l'avait aimée, sa vie n'avait plus été que désordre et confusion. Mais s'il pouvait refaire le chemin pas à pas, revenir à l'endroit précis où tout s'était joué, il finirait par découvrir l'objet de sa quête. Le samedi suivant, Gatsby renonça à illuminer ses jardins et il renvoya tous ses domestiques.
Pour éviter les on-dit, Daisy vient souvent me voir l'après-midi.
Tout le caravansérail s'était donc effondré comme un château de cartes sous le regard des approbateurs de Daisy. Quelques jours plus tard, Gatsby m'invita à déjeuner chez
Tom et Daisy. Il se tramait quelque chose. Ce fut une journée torride. L'une des dernières de l'été. Et sur tous les plans, la plus étouffante.
Il fait si lourd. Et tout est si confus. Qu'allons-nous faire de nous cet après-midi et demain et les 30 prochaines années? Si nous allions en ville, qui veut aller en ville?
Le regard de Gatsby se tourna vers elle.
Vous semblez si calme.
Leurs yeux se rencontrèrent, ils se regardèrent fixement, soudés l'un à l'autre, hors du temps.
Vous semblez toujours si calme.
Là. Elle venait de lui dire qu'elle l'aimait. Et Tom Buchanan l'avait entendu. Il regarda Gatsby, puis il regarda Daisy, et c'était comme s'il reconnaissait en elle quelqu'un qu'il avait connu autrefois. Il se leva et il fut décidé que nous allions tous à New York. Nous nous installâmes dans l'une des suites du Plaza. Et dans cette pièce étouffante, Gatsby affronta Tom.
Mr. Buchanan, j'ai quelque chose de très important
non,
à vous dire.
Par pitié, ne dis rien. Rentrons à la maison, rentrons tous à la maison, vous voulez bien?
Votre femme ne vous aime pas. Elle ne vous a jamais aimé. C'est moi qu'elle aime. Vous comprenez? Elle ne vous a jamais aimé. Elle vous a épousé parce que je n'avais pas d'argent et qu'elle ne pouvait plus attendre, mais c'est une erreur. Une terrible erreur. Mais dans son cœur, elle n'a jamais eu que moi. Depuis 5 ans, sans pouvoir nous rencontrer, nous nous sommes aimés et vous n'en saviez rien. Il m'arrivait parfois de rire en pensant que vous n'en saviez rien.
Et Tom a murmuré... C'est tout. Et comme un vieux sage, il dit que ce qui s'était passé il y a 5 ans ne le regardait pas, que Daisy l'aimait quand elle l'avait épousé, et l'aimait toujours. Et que lui aussi, même s'il lui arrivait parfois de faire la fête, il n'avait jamais cessé de l'aimer, et que dans son cœur, il l'aimait profondément.
Dis-lui simplement la vérité. Que tu ne l'as jamais aimé, tout sera terminé à jamais.
L'aimer? Comment pourrais-je?
Tu ne l'as jamais aimé.
Je ne l'ai jamais aimé. Voilà, Jay. Oh, tu m'en demandes trop. Le passé existe, je n'y peux rien. J'ai aimé Tom, mais je t'aimais aussi.
Tu m'aimais aussi?
Je ne pourrais jamais dire que je n'ai pas aimé Tom, ce serait faux.
Et Tom a écrasé Gatsby de son mépris, disant que jamais Daisy ne le quitterait pour un vulgaire petit escroc, qui, comme il l'avait découvert, avait une chaîne de petites pharmacies de quartier à New York et à Chicago, dans lesquelles il vendait de l'alcool sous le comptoir, n'est-ce pas? Et bien d'autres choses encore. J'ai regardé Daisy qui se tenait affolée entre Gatsby et son mari. Et j'ai regardé Gatsby. Et l'expression de son visage m'a impressionné. On aurait dit, et je l'avoue au mépris de toutes les rumeurs qui couraient dans ses jardins, on aurait dit quelqu'un qui a tué un homme. Et Gatsby s'est repris et il a parlé à Daisy, il lui a parlé avec véhémence, niant tout, défendant son honneur contre des accusations qui n'avaient même pas été formulées. Mais à chaque mot, elle se repliait davantage et il n'a plus rien dit. Et pendant que l'après-midi touchait à sa fin, seul le rêve mort continua de se débattre, de chercher à rejoindre ce qui désormais se trouvait hors d'atteinte.
Tom, rentrons, c'en est trop.
Et Tom a insisté pour que Gatsby raccompagne Daisy dans sa voiture jaune, sa roulotte de cirque, comme il l'appelait. Il te laissera tranquille. Il a compris maintenant que son prétentieux petit flirt est terminé. Et ils ont disparu, sans un mot, rejetés, négligeables, étrangers à tout, comme des fantômes. Tom m'a proposé de prendre un dernier verre, et quelque temps après, nous avons pris la route à notre tour. Nous étions dans le coupé bleu de Tom, et dans le crépuscule qui nous apportait un peu de fraîcheur, nous approchions une zone particulièrement sinistre. À mi-chemin de New York et de Long Island, c'est une vallée de cendres. Une ferme fantastique où la cendre pousse comme du blé. une impressionnante décharge publique, bornée sur le côté par une petite rivière infecte, et quand le pont s'ouvre en deux pour livrer passage aux péniches, le train et les voitures sont obligés d'attendre, ce qui permet aux voyageurs d'admirer ce lugubre spectacle pendant une bonne demi-heure. C'est à cet endroit qu'une semaine plus tôt, Tom m'avait présenté sa maîtresse. Une après-midi, j'avais pris le train pour New York avec Tom, et quand nous nous étions arrêtés, il m'avait ordonné de le suivre hors du wagon. « Je veux te présenter ma petite femme », avait-il dit. Le seul bâtiment en vue était un misérable petit immeuble de briques jaunes qui abritait un garage. Réparation, George B. Wilson, achat et vente de voitures. J'avais suivi Tom à l'intérieur, c'était sordide. Le garagiste avait salué Tom et il avait directement interrogé au sujet d'une voiture que Tom avait promis de lui vendre. J'avais alors entendu, dans l'escalier, un pas et les contours d'une femme assez forte sont venus masquer la lumière du garage. 35 ans environ, manifestement corpulente, mais elle supportait cet embonpoint avec une sensualité naturelle, comme savent faire certaines femmes. Surmontant une robe à pois, son visage n'avait ni éclat ni trace de beauté, mais il y avait chez elle une vitalité qu'on percevait d'emblée, comme si toutes les fibres de son corps étaient en ébullition permanente. Elle avait ordonné à son mari d'aller chercher des chaises d'une voix vulgaire. Wilson avait obéi avec empressement et avait disparu dans le ciment gris des murs. Et une fois seul, Tom et Mrs. Wilson avaient planifié leur escapade. Non, je n'avais pas aimé être témoin de cela. Mais reprenons. Le coupé bleu s'engagea sur le pont. Tom parlait, il criait, il était surexcité. Sa voix m'était aussi indifférente que le brouhaha de la ville qui s'était née derrière nous. Après le pont, nous avons aperçu un attroupement, quelques voitures arrêtées. Tom a ralenti, sans intention de s'arrêter, mais en arrivant à hauteur du garage, quand il a vu les visages pétrifiés des gens massés devant la porte, il a freiné d'instinct.
Elle a été renversée par une voiture. Tu es sur le coup.
Il y avait deux voitures, l'une qui venait, l'autre qui s'en allait, vous voyez.
Elle a couru dans ce sens-là. La voiture qui arrivait de New York lui est rentrée en plein dedans. Elle devait rouler entre 30, 40 à l'heure.
Oh mon Dieu!
Mr. Wilson a découvert il y a deux jours que sa femme avait eu une autre vie en dehors de lui. Ils étaient en train de se disputer quand elle s'est mise à courir dans la poussière.
Mon Dieu!
Elle courait sur la route. Cet enfant de salaud ne s'est même pas arrêté.
C'était une voiture jaune.
Ouais, une grosse voiture jaune, toute neuve.
En repartant, Tom avait le visage couvert de larmes. Et dans un murmure, il a dit... Bon Dieu, d'enfant de salaud, de lâche, il s'est même pas arrêté.
Avez-vous remarqué quelque chose sur la route ?
Oui.
Elle est morte ?
Oui.
C'est ce que j'ai pensé. J'ai dit à Daisy que je le pensais. Il vaut mieux encaisser le choc sur le champ. J'ai regagné West Egg par la route du bord de mer. J'ai rangé la voiture au garage. Personne ne nous a vus, mais je n'en suis pas sûr. Qui est cette femme ?
Elle s'appelle Mrs. Wilson. Son mari est le propriétaire du garage. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé ?
J'ai bien essayé de tourner le volant, mais...
Quoi ? C'est Daisy qui conduisait ?
Oui, mais je dirais que c'était moi, bien sûr. Elle était très nerveuse quand nous avons quitté New York. Elle pensait que conduire la calmerait. Et cette femme a surgi au moment précis où une voiture arrivait en sens inverse. Ça n'a duré qu'un éclair, mais... J'avais l'impression que cette femme nous connaissait et qu'elle voulait nous parler. En essayant de l'éviter, Daisy a foncé directement vers l'autre voiture. Puis elle a perdu ses réflexes, elle a de nouveau tourné le volant. À la seconde où je l'ai saisie, j'ai entendu le heurt. Elle a dû être tuée sur le coup. Puis Daisy a accéléré brusquement. Je lui criais d'arrêter, mais elle ne pouvait pas. Alors j'ai tiré le frein à main. Elle s'est écroulée contre moi et j'ai pris sa place. Demain, elle ira parfaitement bien.
Vous devriez partir, Gatsby. Ils finiront par retrouver votre voiture, c'est pratiquement certain.
Partir maintenant ?
Passer une semaine à Atlantic City. Ou filer directement à Montréal. Mais il refusait d'y penser. Il refusait d'abandonner Daisy avant de savoir ce qu'elle allait faire. Il s'accrochait à un dernier lambeau d'espoir. Je n'ai pas eu le cœur de l'en détacher. Cette nuit-là, il m'a raconté sa jeunesse et son étrange aventure sur le yacht de Dan Cody. Et s'il me l'a raconté, c'est parce que Jay Gatsby s'était brisé comme du verre contre la cruauté implacable de Tom et que le secret de son rêve si longtemps poursuivi venait d'être éventé.
Mes parents étaient de petits fermiers, originaires du Dakota du Nord. Mon imagination n'a jamais admis qu'ils puissent être mes géniteurs. Je me suis fait fils de Dieu. Et me suis dévoué à l'avènement d'une immense, populaire et clinquante beauté. Je me suis forgé un archétype. Jay Gatsby, de Long Island. Et je me suis montré fidèle. J'ai modifié mon nom à 17 ans, lorsque le yacht de Dan Cody a jeté l'ancre sur l'un des bas-fonds les plus sournois du lac supérieur. Je n'étais encore que James Gatz lorsque je rôdais sur la plage, chandail vert troué et pantalon de toile. Mais j'étais déjà Jay Gatsby, lorsque j'ai emprunté une barque et ramé vers le tuyau Lomé pour prévenir Cody que la force des vents risquait de le faire sombrer en moins d'une demi-heure. Ça faisait un an que je vagabondais, ramassant les palourdes, pêchant le saumon et faisant un peu n'importe quoi en échange d'un repas et d'un lit. Pour moi, le yacht de Dan Cody représentait toute la richesse, toute la beauté du monde. Cody était originaire des mines du Nevada, du Yukon et de toutes les ruées vers l'or et autres métaux précieux qui avaient eu lieu depuis 1875. Certaines transactions l'avaient rendu plusieurs fois millionnaire. Et un nombre assez respectable de femmes avait déjà essayé de le soulager de son argent. Toute la presse à scandale en parlait. Ça faisait 5 ans qu'il bourlinguait lorsque je l'ai rencontré. Quelques jours plus tard, il m'offrait un blazer bleu marine, 6 pantalons blancs et une casquette de yachtman. Et quand le tuyau Lomé appareilla pour les grandes Antilles, j'étais à bord. Je fus tour à tour second maître, capitaine, secrétaire et même geôlier à certains moments, car le Dan Cody sobre savait à quelle folie ruineuse pouvait s'adonner le Dan Cody ivre. Je suis resté 5 ans avec lui. Le yacht a fait 3 fois le tour du continent et c'est comme ça que se sont forgés les traits de Jay Gatsby. Lorsque j'ai rencontré Daisy, Jay Gatsby n'était encore qu'un jeune homme sans passé et sans argent. Mon armure invisible pouvait me glisser des épaules à tout moment, alors il fallait que je me hâte, que je m'empare de tout ce qui était à ma portée, sans scrupule. Et un beau soir d'octobre, j'ai décidé de m'emparer de Daisy, parce que je n'avais même pas le droit de lui toucher la main. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Mon cœur battait de plus en plus vite à mesure que le visage de Daisy se rapprochait du mien. Je savais que quand je l'embrasserais, au moment où mes rêves sublimes épouseraient son souffle charnel, mon esprit cesserait de se mouvoir avec l'agilité de l'Esprit de Dieu. J'ai donc attendu, puis je l'ai embrassée. Et au moment où mes lèvres ont touché les siennes, j'ai senti qu'elle s'épanouissait comme une fleur. Et là, l'incarnation s'est achevée. Puis elle est repartie dans sa grande maison, dans sa belle vie riche. Si riche, si pleine, me laissant là, sans rien. Juste le sentiment d'être marié avec elle, c'est tout. J'ai bien espéré qu'elle me jette dehors alors, mais elle ne l'a pas fait. Elle m'aimait, elle aussi. Thank you.
se levait sur Long Island.
Je vais baigner dans la piscine aujourd'hui, vous comprenez, cher vieux, j'en ai pas profité de tout l'été.
Mon prochain train était dans 12 minutes. Je n'avais pas envie d'aller en ville. J'étais de toute façon incapable de travailler. Mais ça allait beaucoup plus loin, je ne voulais pas que Gatsby soit seul. Alors j'ai raté ce train-là. Et le suivant avant de me décider à partir. Nous nous sommes serrés la main et je suis parti. Au moment où j'allais franchir ma haie, je me suis souvenu de quelque chose. Je me suis retourné et j'ai crié. Ce sont tous des pourris. Vous êtes largement au-dessus de toute cette racaille. Et je suis extrêmement heureux aujourd'hui encore de lui avoir dit ça. Le seul compliment que je lui ai fait. Car au fond, j'étais en complet désaccord avec lui, de bout en bout. Il a d'abord hoché la tête poliment, et puis son visage s'est éclairé, et j'ai reconnu son sourire. Ce sourire de compréhension rayonnante qui n'appartenait qu'à lui. Comme si nous nous trouvions depuis toujours en étroite et secrète symbiose sur ce point.
Mr. Wilson a fait route à pied. La police a retrouvé sa trace à Port Roosevelt, puis à Gad's Hill, où il est arrivé vers midi.
Plus personne ne l'a vu les deux heures suivantes. La police en a conclu qu'il a visité tous les garages du coin pour se renseigner sur une voiture jaune.
Mais peut-être avait-il un moyen plus sûr de découvrir ce qu'il cherchait.
Certains disent qu'il s'est rendu chez les Buchanan, un revolver à la main, et qu'il a obtenu le nom du propriétaire de la voiture jaune.
À 2 heures, Gatsby, son matelas pneumatique sur l'épaule, a donné l'ordre à son majordome de l'avertir à la piscine en cas d'appel téléphonique.
À 2h30, Wilson est à West Egg et demande où habite Gatsby.
Vers 3 heures, le majordome de Gatsby a entendu des coups de feu.
Je me suis rendu directement de la gare chez Gatsby, je me suis précipité vers la piscine. Une légère ondulation, à peine perceptible, se dessinait à la surface à mesure que l'eau se renouvelait et s'écoulait par le sas de vidange. Cette succession de petites rides, pareilles au dernier remous d'une vague, poussait le matelas pneumatique vers le bord de la piscine, mais le vent qui soufflait et l'effleurait à peine suffisait à contrarier sa course imprévisible, alourdie d'un imprévisible fardeau. Au contact d'un petit tas de feuilles mortes, le matelas pneumatique tournait lentement sur lui-même, et décrivait dans l'eau, telle la pointe d'un compas, un étroit cercle rouge. Ce n'est que plus tard, en revenant vers la maison, que j'ai aperçu un peu plus loin, étendu sur la pelouse, le corps de Wilson, qui avait retourné son arme contre lui, et le sacrifice rituel s'est trouvé accompli. J'ai appelé Daisy une demi-heure après avoir trouvé le corps de Gatsby, et je l'ai appelé d'instinct, sans hésiter. Elle venait de partir avec Tom. Ils avaient emporté leurs bagages. Ils n'avaient pas laissé d'adresse. Personne ne savait rien. Lors de ces obsèques, j'essayais de me recueillir. J'essayais de penser à Gatsby, mais il était déjà loin. Je ne pensais qu'à Daisy, qui n'avait envoyé ni fleurs ni messages. Mais je ne lui en voulais pas. Personne n'était venu. Ils avaient l'habitude de venir, pourtant par centaines. Ils venaient puiser dans l'alcool de Gatsby le courage de dénigrer leur hôte avec le plus de méchanceté. La maison de Gatsby était encore inoccupée lorsque j'ai quitté New York quelques semaines plus tard. Et le dernier soir, après avoir fait mes malles, je suis descendu vers la plage et j'ai pensé à ce que Gatsby avait dû éprouver en apercevant pour la première fois la petite lumière verte à la pointe de la jetée de Daisy. Il avait fait un si long chemin jusqu'à ce jardin enchanté et son rêve avait dû lui sembler si réel qu'il ne pouvait plus manquer de l'atteindre. Mais il ne savait pas que son rêve était déjà derrière lui, perdu dans cette obscurité d'au-delà de la ville où les sombres espaces de notre nation se perdent à travers la nuit. Gatsby avait foi en cette lumière verte. Cet avenir orgastique qui recule chaque année devant nous.
Pour le moment, cher vieux. Pour le moment, elle nous échappe, mais demain, nous courrons plus vite. Nous tendrons les bras plus en avant et un beau matin.
et nous luttons ainsi, barque à contre-courant, incessamment ramenée vers le passé.
C'était Gatsby le Magnifique, de Francis Scott Fitzgerald, enregistré en public le 3 mai 2019 au studio 104 de la Maison de la Radio, avec Sofiane Zermani, Gatsby, Pascal Rénéric, Nick et Rebecca Marder de la Comédie Française, Daisy. Et les voix d'Antoine Berry-Roger, Clara Chabalier, Zachary Laurent et Mathilde Panis. Musique originale composée par Issam Krimi, interprété par Shems Bendali à la trompette, Issam Krimi au piano et le quatuor Mona. Prise de son, montage et mixage, Bruno Mourlan et Mathieu Tourin. Sonorisation, Nadège Antonini et Philippe Thibault. Assistante à la réalisation, Léa Racine. Adaptation, Pauline Timonier. Réalisation, Alexandre Planck. Gatsby le Magnifique est publié aux éditions Grasset, dans une traduction de Jacques Tournier.